Prions. Nous allons avoir à présent un temps de prédication, un temps où nous nous tournons, où nous nous plongeons dans la parole de Dieu, à la recherche de ce qu'il a à nous dire pour aujourd'hui, pour nous mettre en mouvement avec lui, pour le suivre fidèlement. Ce matin, j'aimerais partir d'un psaume, le psaume 62. Les psaumes sont souvent employés dans les premières parties de culte, quand nous louons le Seigneur pour nous conduire dans la louange. Et effectivement, ce sont des chants, des prières qui ont été écrites pour ça, pour conduire le peuple d'Israël dans la louange, dans le culte de son Dieu. Mais c'est aussi la parole de Dieu qui est utile pour nous enseigner. C'est intéressant de regarder de temps en temps comment louer Dieu et d'étudier ses chants. Psaume 62, du chef de chœur, d'après Yedutun, psaume de David. C'est auprès de Dieu seul que je suis tranquille. C'est de lui que me vient mon salut. Lui seul est mon rocher et mon salut, ma citadelle. Je ne vacillerai guère. Jusqu'à quand vous jeterez-vous sur un homme? Chercherez-vous à le tuer comme un mur qui penche, comme une clôture qui se renverse? Il projette de le renverser de son poste élevé. Il se plaise aux mensonges, de leur bouche ils bénissent, au fond d'eux-mêmes, ils maudissent. Qu'auprès de Dieu seul, je sois tranquille. Car de lui me vient mon espoir. Lui seul est mon rocher et mon salut, ma citadelle. Je ne vacillerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon abri est en Dieu. Mets en lui ta confiance, en tout temps, peuple. Répandez votre cœur devant lui. Dieu est un abri. Les êtres humains ne sont qu'une vapeur. Les hommes, un mensonge. S'ils montaient sur une balance, ils seraient à eux tous plus légers qu'une vapeur. Ne mettez pas votre confiance dans l'oppression. Ne placez pas un espoir futile dans la spoliation. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu ceci. C'est que la force appartient à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la fidélité, car c'est toi qui paies de retour chacun selon ses œuvres. Jusqu'ici, notre lecture. On a dans ce psaume un contexte de difficulté, le contexte d'une épreuve. Et on l'imagine particulièrement intense par les mots qui sont employés. Au verset 4 et 5, l'auteur, le psalmiste, s'adresse à ses ennemis. Il s'adresse de façon assez virulente pour leur dire de cesser ce qu'ils font. Il est là devant Dieu et devant Dieu, il fait comme s'il joue la scène, comme s'il avait en face de lui les personnes qui l'embêtent, qui le font tourner en bourrique, qui le persécutent. Et là, devant Dieu, il ouvre son cœur, il ne cache pas ce qui le plombe, mais il dit qu'il a envie de dire. Des personnes sont là, des oppresseurs, qui attaquent dans la faiblesse. Le psaume parle de s'acharner sur un mur qui penche, sur une clôture qui se renverse, quelque chose qui a déjà de la difficulté, et on vient pour enfoncer. Et on a souvent l'impression de ça quand on est faible, quand les circonstances sont contre nous. C'est là qu'on vient nous attaquer. C'est là que les remarques, les piques nous touchent particulièrement. Et c'est pour certains l'occasion d'attaquer, de faire tomber de la position que pouvait avoir l'autre. On a l'impression qu'on essaye tant bien que mal de gérer, d'assumer ses responsabilités dans son travail, dans sa famille, à travers ses amis, dans ses engagements. On essaye en jonglant. Et quand il y a une difficulté comme ça, et qu'il y en a d'autres qui passent, on a vraiment l'impression d'être abattu, coupé à la base, avec la hache qui vient là, dans les jambes, pour nous faire tomber. L'impression d'une trahison. Et cette trahison, elle est exprimée aussi dans ce psaume. De leur bouche, ils bénissent, au fond d'eux-mêmes, ils maudissent. Par devant, ils sont gentils, ils sont sympas, mais par derrière. Ou alors, des gens avec qui on s'est bien entendu, qui nous ont fait des compliments, avec qui on se sent en confiance. Puis, une attaque, une remarque, on se rend compte que celui qu'on prenait pour un ami ne l'est pas tant que cela. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que ce psaume vous parle ? Est-ce que ça parle quand on parle d'épreuves, d'être attaqué ? Souvent, quand on parle d'épreuves, de difficultés, on a du mal à nommer les gens. On va parler de circonstances, maladies, inquiétudes matérielles, soucis d'éducation, deuil, célibat. L'un n'empêche pas l'autre. Dans la faiblesse, on peut être attaqué, être plus sensible aux remarques des autres. Je me rends compte dans les rencontres que je peux faire, dans les entretiens que je peux avoir, que les autres et la façon dont ils sont avec nous nous affectent. Est-ce que ça vous parle ? Je propose de prendre quelques secondes pour réfléchir à une situation difficile que vous traversez. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme ? Chercherez-vous tous à le tuer comme un mur qui penche, comme une clôture qui se renverse ? Oui. Il projette de le renverser de son poste élevé. Ils se plaisent aux mensonges. De leur bouche, ils bénissent. Au fond d'eux-mêmes, ils maudissent. Il y a cette dimension dans ce psaume qui fait l'inventaire devant Dieu des difficultés qui sont vécues. Mais il y a aussi une dimension d'enseignement. Le psalmiste s'adresse au peuple directement. On voit ça au verset 9 où il lui dit « Mets en lui ta confiance en tout temps, peuple. » Et puis, il y a aussi ces versets-là, 10 à 12, qui cassent un peu le rythme, qui changent. On a l'impression que l'auteur fait un bilan, une parole de sagesse, où il médite sur les humains qui ne sont qu'une vapeur. Une vapeur. Une vapeur, c'est un terme qu'on trouve dans la Bible et on le trouve en particulier dans le livre de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste qui médite sur le monde, qui n'est que vanité. C'est ce mot-là qui est utilisé pour vanité, vapeur, de la buée, quelque chose que on expire, ça marque la vitre et une seconde après, ça a disparu. Sitôt arrivé, sitôt parti. Voilà ce qu'est l'homme, une vapeur, un mensonge également. mensonge de l'humain qui se croit quelque chose alors qu'il n'est rien, il ne pèse rien, il ne fait que passer. Être aussi insignifiant invite à la modestie, invite à prendre du recul devant ce monde, devant ce qu'il y a au-dessus de nous, devant Dieu. Et le psalmiste profite de ce psaume pour donner un conseil sur le chemin à suivre, ou plutôt sur le chemin à ne pas suivre. Il invite à rejeter l'oppression, la spoliation et l'attachement aux richesses. Dans cette succession, je trouve qu'il y a une dégradation du mal fait aux autres. L'oppression qui est vraiment chercher de faire le mal et de poursuivre les gens pour leur faire du mal, il faut l'éviter. Mais il faut éviter aussi la spoliation, d'essayer de se servir, de prendre toujours plus et de prendre aux autres toujours plus. Mais il faut même éviter de s'attacher aux biens matériels, ce qu'on a. Il y a un point commun entre ces trois attitudes, oppression, spoliation et attachement aux richesses. Ce point commun, c'est la volonté d'assurer son propre statut, d'assurer sa sécurité, de l'assurer avec ses forces, en se hissant au-dessus des autres, en accumulant, en ayant un capital. C'est une erreur. C'est une erreur parce que la force appartient à Dieu. Et c'est affirmé au verset 12, la force appartient à Dieu. Aussi, ce chemin de compter sur ses propres forces, de vouloir bâtir sa place forte, il est vain, il faut s'en écarter et se tourner vers Dieu qui est vraiment notre forteresse. Voilà le chemin qu'invite à prendre le psalmiste. Mais avant de regarder comment le faire, parce qu'il nous dit également comment le faire, j'aimerais dire un dernier mot sur le psaume lui-même, sur le texte, et regarder un détail structurel. Je ne sais pas si ça vous est apparu à la lecture, il y a une répétition dans ce psaume. Si les psaumes sont des chants, de la musique, il y a un refrain dans ce psaume. On le trouve au verset 2 et 3, « C'est auprès de Dieu seul que je suis tranquille. C'est de lui que vient mon salut. Lui seul est mon rocher et mon salut. Ma citadelle, je ne vacillerai guère. » Et ces deux versets sont repris presque mot pour mot. On reviendra sur les différences. Au verset 6 et 7, le refrain de ce psaume. Un refrain, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qu'il faut retenir. On a chanté tout à l'heure « Mon encre et ma voile ». Il y a trois couplets, et je ne sais pas si vous pouvez les chanter par cœur. L'an dernier, au week-end d'église, on s'est rendu compte, en jouant ensemble, que les chants qu'on croit connaître, finalement, ce n'est pas aussi facile que ça de sortir les paroles quand on coupe la musique. Par contre, les refrains, on s'en souvient. « Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. » Et si vous avez chanté ce chant plusieurs fois, je suis sûr que ce refrain vous est déjà revenu. Refrain, c'est quelque chose d'important, c'est le cœur du psaume. S'il y a une seule chose qu'on retient de ce psaume, ce ne devrait pas être les remarques faites aux adversaires. Ça ne devrait pas être la leçon d'assurance à la fin dont nous avons parlé. Non. Ça devrait être ces versets 2 et 3. C'est auprès de Dieu seul que je suis tranquille. C'est de lui que me vient mon salut. Lui seul est mon rocher et mon salut, ma citadelle. Je ne vacillerai guère. S'il n'y a qu'une chose que vous retenez ce matin de la prédication, même du culte. Je trouverais chouette que ce soit ceci, ces deux premiers versets du psaume 62. Un refrain, mais un refrain qui a été modifié la deuxième fois qu'il apparaît. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a trois différences entre la première apparition, les versets 2 et 3, et la deuxième, les versets 6 et 7. Oui, c'est ça, 6 et 7. Alors, les différences sont rendues différemment selon les différentes traductions. Hein. Vous pouvez regarder ce qu'il y a dans la vôtre, mais je vais me baser sur ma traduction. Au début, c'est auprès de Dieu est remplacé par qu'auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je suis, qu'auprès de Dieu je sois. Une affirmation est remplacée par un souhait. Et dans la deuxième fois que le psalmiste dit cela, eh bien, il souhaite, il s'exhorte, il s'encourage. Également, il prie pour que cela se réalise, pour que cette foi en Dieu seul, cette tranquillité qu'il a, eh bien, il se rend compte qu'il ne l'a pas complètement et qu'il prie pour l'avoir complètement. Il commence en affirmant qu'auprès de Dieu seul, il est tranquille, et puis en se remémorant les difficultés avec les personnes, il se rend compte qu'il en prendrait bien un peu plus, et il prie le Seigneur qu'auprès de Dieu seul, je sois tranquille. Deuxième différence, dans le premier verset, il était écrit « C'est de lui que vient mon salut ». Et dans le deuxième, c'est de lui que vient mon espoir. Le psalmiste est au clair sur le secours que Dieu donne. Ce n'est pas un salut une fois pour toutes, une tranquillité, il ne va plus rien se passer. Il sait que la vie avec Dieu, ce n'est pas ça. Il sait que des fois, on attend la délivrance et puis elle tarde. Il sait que des fois, elle ne vient pas et Dieu donne d'autres moyens. Mais il a un espoir, une espérance. Il fait confiance à Dieu qui délivrera et qui promet qu'avec lui, tout se passera bien. C'est une promesse, elle est certaine. Elle était déjà à l'époque de David, elle est encore pour nous avec lui aujourd'hui, avec Dieu. Ça se passera bien, même dans la difficulté. Moi, je suis impressionné de lire ça dans ce psaume écrit par David. Et la chose qui m'impressionne, c'est que il en sait moins que nous au moment où il écrit ça. Nous, après les psaumes, on a les prophètes. Après les prophètes, on a la réalisation des prophéties quand on voit Jésus arriver. Et puis après Jésus, on voit l'Église et on a l'Apocalypse qui nous permet de voir ce qui se passe dans les cieux avec Jésus qui se prépare à revenir. Et lui, il sent tout ça. Il met son espoir en Dieu. Il sait, dans le flou de ce que Dieu a promis, que son salut est en lui. Alors il y croit. Et c'est ça qu'il vise. La troisième différence entre les deux refrains, elle est à la fin. Dans le premier, il est dit « Je ne vacillerai guère ». La deuxième fois, il écrit « Je ne vacillerai pas ». Il y a un petit doute qui est exprimé dans le premier paragraphe. La certitude dans le deuxième est plus forte. Il y a des traductions, par exemple, qui le rendent différemment. Par exemple, la Tob traduit la première fois « Je suis presque inébranlable » et la deuxième fois « Je suis inébranlable ». Le psalmiste était venu avec une certitude qu'en Dieu, ça va à peu près bien se passer. Mais après, il prie pour qu'en Dieu, vraiment, il soit inébranlable. Il est une force paisible. Il est la tranquillité. Je trouve vraiment très intéressant. Pour moi, ça, c'est le genre de pépite qu'on trouve dans les psaumes. Comment, avec toute petite nuance, trois mots qui changent, on voit un chemin. On voit quelqu'un arriver qui sait que Dieu va aider, mais bon, là, je suis dans la difficulté, je ne le vois pas vraiment agir. Et quand il se met devant lui, dans la prière, alors il y a ce désir qui le tourne vers Dieu et l'assurance qui grandit dans la façon dont il se tourne vers lui. Il y a vraiment un pouvoir dans la prière. Il y a vraiment un moment où Dieu nous parle et nous transforme et nous permet de vivre avec lui à travers la prière. Et je crois que ce psaume nous le montre, en témoigne. Pour être pratique, j'aimerais poser la question, que faire ? À partir de ce psaume, qu'est-ce qu'on peut dire ? Que faire, nous, quand nous sommes dans la difficulté, pour nous confier en Dieu ? Et j'aimerais relever trois étapes inspirées de ce psaume qui peuvent nous gérer à aider les difficultés. La première étape, c'est de savoir que l'épreuve est normale. Être dans la difficulté, c'est normal. J'espère que vous savez qu'être chrétien, ce n'est pas ne pas avoir de problème. Ce qui change quand on est chrétien, c'est la façon dont on gère les problèmes. C'est avec Dieu qu'on les gère. Être chrétien, ce n'est pas ne plus avoir de problème, mais ce n'est pas non plus ne plus avoir de galère, ne plus avoir de doute. Cette galère est aussi normale. Et on voit ces pensées dans lesquelles le psalmiste se débat. Il n'est pas serein dans l'épreuve. Il a ce ressentiment, ces choses qu'il a exprimées à ses adversaires, à ces gens qui l'attaquent. Il n'est pas complètement sûr. Il prie pour que sa certitude grandisse. Il est au combat, il est là-dedans. Et dans d'autres psaumes, on voit encore plus de combats, plus de difficultés. Et ailleurs dans la Bible, on voit des serviteurs de Dieu qui ont vraiment des difficultés, qui rencontrent des murs. C'est normal. Et malgré le fait que ce soit normal, malgré ça, quand on se débat, il arrive que la conclusion qu'on tire, c'est « s'il y a ça qui m'arrive, c'est que je suis un mauvais chrétien. » Si je n'ai pas la sérénité, c'est que je suis mauvais chrétien. C'est que ma foi n'est pas assez grande. D'où cela vient-il ? D'où ces pensées viennent-elles ? Je crois qu'elles viennent de l'ennemi, du diable. Celui qu'on appelle Satan. Satan qui est un nom construit sur un verbe qui veut dire accuser, l'accusateur par excellence. Ce qu'il fait, c'est accuser. Vous vous souvenez de la tentation de Jésus dans le désert ? Si tu es le Fils de Dieu, prouve-le, tu n'es pas vraiment le Fils de Dieu, n'est-ce pas ? Et à nous, si tu es chrétien, si tu étais vraiment chrétien, solide, digne de Dieu, cela ne t'arriverait pas. Ce qu'il souhaite, c'est qu'on le pense et que cette pensée nous paralyse. Qu'on choisisse de ne plus se tourner vers Dieu. Qu'on croit qu'on a un problème à régler avant d'aller vers Dieu, alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est vers Dieu qu'il faut aller pour régler le problème. Aller vers Dieu pour régler le problème. En parler à Dieu. C'est ce que fait le psalmiste. Ses ennemis, il est là, il y pense, et devant Dieu, il dit ce qu'il a envie de leur dire. On est parfois mal à l'aise avec ces accusations, avec cette virulence dans les psaumes. Et pourtant, Dieu sait déjà ce qu'on a dans notre cœur. Il sait les pensées qu'on a. Est-ce que les cachets valent du pé? C'est nous qui nous trompons. Au contraire, ouvrons notre cœur, répandons-nous devant lui. Et puis, souvenons-nous, ce n'est pas à nous de nous venger. Et quand on se tourne vers Dieu pour lui parler de nos problèmes et de nos difficultés avec d'autres, je pense qu'on a raison de nous en remettre à lui au lieu d'essayer, nous, de venir agresser les autres pour nous faire justice nous-mêmes. Et puis, dans la prière, Dieu nous fait évoluer. Parce que la prière, ce n'est pas juste un monologue, mais à nous répandre devant Dieu. Il change nos cœurs. Il nous fait avancer. Comme il fait avancer le psalmiste, on l'a vu entre les deux refrains, ils ne sont pas pareils. Il a avancé. Quand on prie, on se met devant Dieu. Il nous fait avancer. La foi chrétienne, ce n'est pas prendre sur soi, se détacher des choses, essayer à être zen, que tout nous coule dessus sans nous atteindre, être capable de tout supporter. Non, la foi chrétienne, c'est se tourner vers la bonne personne pour gérer les difficultés auxquelles nous faisons face. Se tourner vers Dieu. Et c'est la deuxième étape. Après la première qui est reconnaître que l'épreuve est normale, la deuxième étape, c'est se tourner vers Dieu. Comment le faire? Je pense que ce qui est fait au début du psaume, c'est une très bonne chose. Commencer par affirmer sa foi. Même si c'est difficile, même s'il y a le doute, si on vient vers Dieu pour s'adresser à lui, c'est qu'on a un minimum de foi, un minimum d'attente à son égard. Alors, commençons par là. Commençons par confesser ce que nous croyons de Dieu. Et Dieu, lui aussi, partira de là pour faire grandir cette foi en nous. Et puis, prions. Prions pour en avoir plus. Prions pour avoir plus de cette foi. Il y a cet épisode de l'Évangile qui vraiment, moi, a orienté ma foi, orienté ma relation avec Dieu. C'est ce temps où Jésus guérit le garçon épileptique. On trouve ça dans Marc 9. Il y a un père avec un garçon qui a des crises d'épilepsie et les disciples n'ont pas réussi à le guérir. Et le père se tourne vers Jésus et lui dit « Si tu peux faire quelque chose, s'il te plaît. » Et Jésus lui dit, je cite l'évangile de Marc, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Ou dans une traduction, « Je crois, mais aide-moi car je manque de foi. » Voilà une attitude à avoir. « je crois jusque-là, je crois pas complètement. Viens Seigneur, aide-moi à croire plus. Fais-moi grandir. Donne-moi cette foi qui permet d'être guéri ou donne-moi cette foi qui permet de surmonter la difficulté et de vivre avec. Donne-moi la foi. Parce que le cadeau de Dieu, ce n'est pas toujours la délivrance, la guérison. Ce que Dieu donne, c'est la joie profonde, même dans la difficulté, une joie réelle et profonde en lui, basé sur l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. L'espérance. C'est la troisième étape. Après reconnaître qu'il est normal d'être dans l'épreuve, après nous tourner vers Dieu, espérer en lui. J'avais dit que j'étais impressionné. Sans connaître Jésus, le psalmiste met sa confiance en Dieu. Même avec une révélation partielle, il peut avancer. Mais nous en savons. Nous savons, pour nous, le salut est moins flou. Nous savons que Jésus est venu. Par sa mort, il nous réconcilie avec Dieu. Il a pris nos enfances, il a pris notre rébellion, tout ce qu'il y avait entre nous et Dieu, et il nous a réconciliés avec lui. Et par sa résurrection, il montre que sa promesse d'avoir la vie éternelle, une vie débarrassée des conséquences du péché, du mal, de l'égoïsme, de la souffrance, cette promesse se réalisera. Et Jésus reviendra. J'aimerais lire un extrait de Romains 8. Voici ce que Paul écrit. « J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée en nous. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à la futilité. Futilité, la vapeur, ce truc qui passe, qui n'a pas de sens. La création a été soumise à la futilité avec une espérance. Cette même création sera libérée de l'esclavage du périssable pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Nous savons que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Glorifiés, cette gloire qu'on trouvait déjà au verset 8 de notre psaume. Quand le psaume disait « Sur Dieu repose mon salut. » Visons cette espérance. Viser l'espérance, c'est lever les yeux et par-dessus les difficultés qui sont toujours présentes, mais par-dessus, voir au-delà, voir le Seigneur qui revient et la vie avec lui qui nous attend. Entrer dans la confiance de Dieu. Face à l'épreuve, souvenons-nous. Nous ne sommes pas des mauvais chrétiens, nous ne sommes pas indignes de nous adresser à Dieu. Au contraire, tournons-nous vers Dieu de qui vient la foi et la sérénité pour aujourd'hui. Et gardons en tête, visons l'espérance de son retour et la vie avec lui qui nous attend. J'avais au début de la prédication invité à penser à une difficulté. Je vous invite à prendre un temps pour y repenser à la lumière de ce que nous sommes dit, et puis peut-être en silence devant Dieu, le prier. Seigneur, tu vois les difficultés dans lesquelles nous nous débattons parfois. Tu connais celles que nous avons aujourd'hui, chacun d'entre nous. Et nous te prions, Seigneur. Nous te prions que tu fasses grandir en nous la foi que tu nous donnes. Nous nous tournons vers toi parce que nous croyons que tu délivres et que ta délivrance, un jour, sera parfaite, complète. En attendant, Seigneur, augmente notre foi, fais-nous avancer, progresser avec toi dans la paix. Cette paix que tu donnes à tes enfants. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.